9h-10h, à votre service avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Bien le bonjour mes camarades auditeurs, Maître Serran est ravi de vous retrouver, ou devrais-je dire l'affreux Maître Serran qualificatif que vous avez utilisé hier, mon cher Philippe. Et je peux vous dire que ça m'a fait mal de vous entendre dire ça. Heureusement que M. Abdelali Mamoun, que je m'autorise à qualifier de sage parmi les sages, vous a rétorqué. Non, le délicieux Maître Serran Layaïchek, frère Abdelali Mamoun.
Mais... J'ai fait ça pour savoir si vous écoutiez.
Oui, non, mais j'écoute tout le temps.
C'était pour vérifier.
Ah, bon, ben ouais. Voilà, donc vous avez la réponse. Mais revenons à des choses plus sérieuses, hein, mon cher Philippe. L'actualité a été lourde, et oui, je suis heureux d'annoncer à nos auditeurs que samedi dernier, au salon de l'érotisme, vous teniez le stand donc numéro 25 et vous avez écoulé pas loin de 5000 calendriers avec des photos de vous en tenue légère. 5000 psartiques, mon cher Philippe. Allez, je cesse de faire le rigolo pour évoquer cette fois-ci un sujet ô combien important, les revendications de nos frères en Algérie. Cette jeunesse en marche que plus rien n'arrêtera, car on n'arrête pas l'avenir d'un pays, cette jeunesse algérienne qui est un exemple aux yeux du monde entier. Bah oui, l'Algérien, il est réputé pour démarrer au quart de seconde. Ah, l'Algérien, il a le demahamé, frère. Hein. Et l'Algérien, il te dégomme avec ses poings, il n'a pas d'armes, pas de flingue, pas de couteau. Non, nous, on est des bulldozers. Non, le couteau, entre nous, c'est plutôt le truc des Tunisiens. Les Tunisiens, ils aiment bien utiliser le couteau. Bon, le Marocain, quant à lui, il bronche pas en règle générale. Il est pas trop dans la violence. Bon, voilà, j'ai relancé en deux secondes, mon cher Philippe, la guerre entre les frères algériens, marocains et tunisiens. Donc, je disais, alors qu'on craignait des manifestations violentes en Algérie, alors que le Rassemblement national hurlait sur tous les plateaux télé qu'il y aura une déferlante des Algériens sur le territoire français, point de violence, point de haine. Les manifestants ont même nettoyé les rues après les manifs. Eh, nous, on n'est pas les gilets jaunes, hein. Prenez-en de la graine, les Français. L'Algérien est gentleman jusque dans les manifs. J'ai jamais été aussi fier de voir tous ces drapeaux algériens. Certains étaient utilisés comme des voiles, d'autres portés autour de la taille. Ah, il est beau, notre drapeau. D'ailleurs, je me rendrai, mon cher Philippe, en Algérie la semaine prochaine. Je vous ferai, à mon retour, un petit topo de mon escapade. À moins, évidemment, que je décide de m'installer là-bas. Car je serai peut-être accueilli dans ce pays en héros, le peuple souhaitant, paraît-il, hein, que Maître Serran devienne le nouveau dirigeant de l'Algérie. J'ai peaufiné au cas où un petit programme de relance pour le pays, mais j'en réserve la primeur à mes sympathisants, car nous devons maintenant accueillir nos auditeurs qui sont invités à poser leurs questions au 01 53 48 3000, émission sous le contrôle de mon peut-être futur Premier ministre algérien, M. Philippe Ben Robichon. Beurre FM, c'est tout droit, c'est parti.
Maître Serran, alors j'ai bien lu attentivement la constitution algérienne, je ne pourrais malheureusement pas être Premier ministre, Maître Serran, voilà, c'est comme ça.
On fera une exception, il y a eu tellement d'exceptions dans ce pays,
on peut réviser la constitution
On va la réviser nous-mêmes, on va rester sur les vieilles habitudes.
J'ai l'impression qu'ils se sont même assis dessus, la constitution.
Oui, oui, carrément. Ouais. Bon, écoutez, en tout cas, ce qui est bien, c'est que pour l'instant, j'espère que ça va rester comme ça, pas de violence, et ça en dit long sur la maturité du peuple algérien.
Oui, qui donne une leçon au monde entier. Donc c'est vrai que Maître Serran part en Algérie la semaine prochaine.
Oui, c'est vrai.
Vous allez à Alger un petit peu ou pas ?
Non, je vais parce que je vais rester très peu de jours, donc je vais faire un saut à Tlemcen et puis à Ras Aouat. Et pour Alger, je vais attendre encore un peu. Je vais rester que quelques jours, enfin à peine une semaine.
Bon, spéciale dédicace à une auditrice qui nous écoute, qui travaille au consulat algérien.
Oui. Une pénible de chez pénible, mais heureusement que quelqu'un a pu intervenir. Qu'est-ce qu'on disait ? Qu'est-ce qu'on reproche au peuple algérien ? Toujours, en tout cas, le peuple reproche ça à nos dirigeants, c'est-à-dire les histoires de pistons et autres. C'est-à-dire que si vous ne connaissez pas X ou Y, eh ben on vous fait des misères. Donc c'est triste et c'est malheureux. Mais effectivement, une demoiselle qui se reconnaîtra peut-être, que je ne salue pas.
Non, vous auriez dû prendre son nom, son prénom. Allez, on va parler du DCEM. C'est le document de circulation pour étrangers mineurs.
Oui.
Je ne savais même pas que ça existait avant hier, Maître Serran.
Bah oui, puisque...
Vous avez eu la gentillesse d'attirer mon regard sur ce document. À quoi sert-il ?
Alors d'abord, il faut savoir que ce document, initialement, portait le nom de titre d'identité républicaine. Donc on utilisait ce terme-là, et donc ça a été remplacé par le document de circulation pour étrangers mineurs. Alors, à quoi sert ce fameux document ? Donc, il concerne, alors, par définition, des étrangers mineurs. Et il faut savoir que quand vous êtes un étranger mineur sur le territoire français, vous n'avez pas besoin, en tout cas la loi ne vous impose pas, l'équivalent d'un titre de séjour, d'une carte de séjour.
C'est pas obligatoire.
C'est pas obligatoire, vous pouvez rester, comme dirait l'autre, là, mineur sans jamais avoir le moindre document. Par contre, à votre majorité, il va falloir se réveiller et faire le nécessaire pour obtenir un titre de séjour. Mais pourquoi ce document est important ? On a souvent été contacté par des parents pour nous dire que leurs enfants, encore une fois, hein, donc qui sont des étrangers mineurs, devaient se rendre en Angleterre, en Allemagne, pour des voyages scolaires. Alors évidemment, si vous n'avez aucun document qui puisse établir que vous êtes en situation régulière sur le territoire français, ça va poser une difficulté. Donc la question se pose souvent, en fait, lorsque l'école organise des sorties. Mais même chose pour les parents. Si demain, après-demain, vous devez partir avec vos enfants et quitter le territoire français, il faut bien un document qui puisse, aux yeux de l'administration française, aux yeux des services douaniers, dire que votre enfant mineur est autorisé à revenir sur le territoire français. L'avantage, c'est quoi ? C'est que, bien évidemment, à partir du moment où vous avez ce document, point de visa à solliciter. Donc, vous pouvez revenir sur le territoire français avec ce document, accompagné, évidemment, de votre passeport. Mais c'est un document, encore une fois, qu'il faut, même si vous n'en avez pas besoin dans l'immédiat, qu'il faut quand même solliciter auprès des autorités préfectorales. Pourquoi ? Bah parce que si vous attendez une échéance particulière, il faut savoir que l'administration française, la préfecture, a un délai de 4 mois pour vous apporter une réponse. Mais la réponse n'est pas forcément positive. Il faut savoir quand même que ce document est lié à la situation de vos parents. C'est-à-dire que si, et ça arrive très souvent, ce sont des cas de figure qu'on voit assez régulièrement, si vos parents et les deux sont en situation irrégulière et que vous êtes sur le territoire français avec vos parents, bien évidemment, vous ne pourrez pas faire ce type de démarche. Donc ça ne concerne que les enfants de parents qui sont, en tout cas au moins là, l'un des parents qui est ou qui serait en situation régulière. Ça ne concerne pas les parents, les enfants des parents, donc qui ne seraient pas autorisés, en tout cas au moment où on se parle, à séjourner sur le territoire français.
Donc, ce qui veut dire, Maître Serran, que toutes les préfectures sont habilitées à délivrer ce...
Alors, il faut toujours appeler, entre guillemets, la préfecture, sa préfecture principale. Après, on peut éventuellement vous orienter vers les sous-préfectures. Alors, même chose, d'une préfecture à une autre, d'une sous-préfecture à une autre, ce ne sont pas toujours les mêmes documents qui sont sollicités. Ça peut sembler curieux, mais c'est comme ça. Donc, il ne faut pas hésiter. Alors, soit aller sur le site. Mais parfois, vous voyez, hier, pour alimenter un peu cette rubrique, j'ai essayé de me connecter sur plusieurs sites et vous avez des sites où vous n'avez pas de liste de documents à apporter. Donc, il faut absolument les contacter. Inutile de vous présenter comme ça.
Service public,
il y a des informations, mais c'est vrai que d'une préfecture à une autre, on va vous demander un document assez particulier. Il faut savoir aussi que ce fameux document donc est pour une durée limitée. C'est un document qui vous sera remis pour une durée de 5 ans, renouvelable évidemment, et puis ce document ne sera plus d'actualité. Alors dans plusieurs hypothèses, à partir du moment où vous devenez majeur, donc vous devenez une grande personne, donc dans ce cas-là c'est plutôt un titre de séjour qui va falloir solliciter. Si entre-temps c'est aussi arrivé, vous voyez, si vous êtes l'enfant d'une personne qui est devenue, l'enfant mineur bien sûr, d'une personne qui entre-temps est devenue, a obtenu la nationalité française, de facto vous allez obtenir la nationalité française et ce petit document, donc il va falloir le restituer aux autorités préfectorales. Mais encore une fois, c'est important parce que souvent, je vous dis, hein, les personnes attendent une échéance particulière, une sortie scolaire, quitter le territoire français pour faire la démarche. Faites la démarche avant. Il ne faut pas oublier que l'administration française, encore une fois, n'est pas obligée de vous donner ce document et que si au bout de 4 mois, vous n'avez pas de réponse ou si on vous dit bah non, on ne veut pas pour telle ou telle raison, il y a des délais ensuite pour contester et saisir éventuellement un tribunal administratif.
Tous les pays sont concernés ?
Alors, ça concerne, ça concerne tous les pays. Après, il y a des particularités si vous êtes d'un pays européen. Mais là, je me focalise
en dehors de l'espace Schengen, voilà. Ou de l'Europe.
Ouais, complètement. Hein. Donc, tous les pays sont concernés par ça. Encore une fois, vraiment, c'est, je le redis, c'est une petite démarche qui est pas très compliquée à faire et qui peut évidemment vous faciliter la vie, tout en sachant que ça c'est assez particulier. Vous voyez, quand vous êtes dans le cadre de l'espace européen et que vous demandez ça, ce document est gratuit. Lorsque vous êtes en dehors de l'espace européen et que vous sollicitez ce document, ça vous coûtera 45 €. Montant à régler donc par des timbres fiscaux, donc c'est assez particulier, toujours une préférence, alors d'aucuns diront qu'elle est justifiée ou pas, une préférence pour ceux qui sont dans le cadre de l'espace Schengen.
Voilà, je dirais que c'était 45, pour tous les étrangers c'est 45 € en France, hein.
Oui, sauf que, encore une fois, en dehors de l'espace Schengen, pour les autres, voilà. Ceux qui sont dans le cadre de l'espace Schengen, c'est gratuit.
Voilà, c'est
après,
ça.
Voilà, c'est comme ça. Mais vraiment, hein, ça peut pourrir la vie, en tout cas, ça peut pourrir la vie de vos gamins si tous les camarades partent en Allemagne, en Espagne ou en Angleterre, et que, parce que évidemment, sans ce document, votre enfant ne pourra pas bouger et quitter le territoire français. En tout cas, s'il le fait, il aura des difficultés pour revenir.
Maître Serran répond à vos questions au 01 53 48 3000, et c'est Ali qui vous appelle de 3. Maître Serran, de quoi avez-vous besoin?
Bonjour,
de
Philippe.
3, maître Serran, de quoi avez-vous besoin?
Je
suis en train de... J'ai mon téléphone qui fait vibrer la fesse gauche. Bonjour. C'est pour ça, donc je le retire de ma poche. Ça.
Donc, Ali, bonjour.
Oui, Ali, bonjour. Pardon, bonjour Ali.
Bonjour Philippe, bonjour maître Serran.
Bonjour Ali.
Donc, voilà, je voulais intervenir à la place d'un ami, donc, que j'ai rencontré ici à 3, il y a près d'un an. Donc, c'est un Syrien réfugié. Donc voilà, il a fait tout un parcours, il est passé par la Grèce, plusieurs pays. Donc au final, ils ont lui proposé le Portugal, donc il a accepté. Mais par la suite, il a quitté le Portugal pour déposer sa demande d'asile en France. Mais après, par la suite, la France a décidé de le renvoyer au Portugal. Apparemment, il a fait ses empreintes là-bas. Donc,
Fait, dans le cadre de l'espace Schengen,
oui.
À partir du moment où vous sollicitez l'asile politique et que vous sollicitez cet asile, en règle générale, c'est dans le premier pays dans lequel vous arrivez, ou alors parfois, si, parce que là, votre ami donc, a eu manifestement un parcours, mais à partir du moment où vous avez formaliser votre demande d'asile politique au sein d'un pays, vous ne pouvez pas ensuite vous dire, pour une raison X ou Y, je l'ai fait dans un pays X et puis maintenant je vais le solliciter auprès des autorités françaises. Les autorités françaises, légitimement, vont vous dire, mais attendez, le nécessaire a déjà été fait. Moi, autorité française, je n'ai pas la compétence pour traiter ce dossier. Merci de vous rapprocher donc du pays auprès duquel vous avez formalisé cette demande. Mais voilà. Ça, c'est, enfin, encore une fois, ça, on peut le comprendre. C'est aussi une question d'organisation. Sinon, ça voudrait dire que les personnes pourraient déposer des dossiers de cette nature auprès de chaque pays appartenant à l'espace Schengen. Donc, là, il n'y a pas d'autre option. C'est-à-dire que s'ils restent comme ça sur le territoire français, effectivement, ils ne traiteront jamais son dossier. Et entre guillemets, son interlocuteur privilégié, ça va être le premier pays qui a accepté, donc, en tout cas, le dossier d'asile politique. Mais ça, oui. Oui, c'est la règle en la matière, hein. Il n'y a pas d'exception.
Oui, donc ma question, en fait, lui, en fait, il est retourné là-bas, il a obtenu le statut de réfugié, donc il est reconnu comme un réfugié, voilà.
Ouais.
Donc, il a eu le statut, mais c'est que il a du mal, parce qu'en fait, si vous voulez, il a quitté le Portugal. C'est par rapport, au problème qu'il a rencontré là-bas. Donc, il y a le handicap de la langue, et puis il n'y a pas d'assistance au niveau des démarches, que ce soit pour l'école, il a des enfants, parce qu'il a 4 enfants, ils sont de bas âge les 4. Donc voilà. Donc ma question, c'est que est-ce que il peut changer le pays d'accueil, c'est-à-dire il va faire une demande auprès de la France, voilà, s'il peut changer le pays d'accueil.
Non, encore une fois, pays, non. Le non. À partir du moment où vous avez un pays X ou Y qui vous accorde ce statut-là, vous restez au sein de ce pays, vous restez avec ce statut, et vous pouvez pas. Et je peux comprendre les raisons pratiques que vous évoquez, elles peuvent s'entendre, mais voilà, on a un pays qui a fait, alors pardon pour le terme, c'est quand même une réalité, oui, oui. L'effort de, à partir de ce moment-là, l'intéressé donc ne sera régi, en tout cas dans son statut, que par ce pays.
Ah, d'accord.
Ouais, il n'y a pas de le raisonnement étant de dire entre guillemets que c'est pas à la carte. Bah, je vais pas choisir. Alors, on peut choisir initialement tel ou tel pays, mais à partir du moment où un pays de l'espace Schengen vous a accordé cette protection, puisque c'est une protection.
Oui.
Ouais, voilà. Donc, c'est ce pays qui va gérer votre situation jusqu'au bout.
Donc voilà, donc il peut pas revenir, voilà.
Bah, encore une fois, il y a rien qui lui interdit évidemment de faire un saut, voilà. Mais voilà, la réponse qui sera apportée par les autorités françaises sera celle-là, en disant mais nous on gère pas votre dossier. Merci, voilà, de vous rapprocher du pays qui vous a accueilli, qui vous a accordé cet asile politique.
Voilà. Merci.
Maintenant, après, sincèrement, moi, je connais pas les conditions au niveau, au niveau du Portugal, s'ils aident les familles ou pas, mais voilà, une fois que ça a été accordé, il pourra pas changer de casquette.
Voilà, j'ai gardé le contact avec lui, mais à chaque fois, donc, il me réclame des trucs, c'est incroyable. Hein.
Ouais, j'imagine.
Ils sont maltraités, c'est pas ça, non. Mais il n'y a pas d'assistance au niveau des démarches. Il y a le handicap de la langue, ils ne maîtrisent pas la langue. Donc voilà, que ce soit pour voir le médecin ou voilà, et donc
c'est pour ça que c'est pour ça que c'est important de dire que quand on envisage entre guillemets, alors c'est facile à dire évidemment, mais dans le concret c'est toujours compliqué, mais quand on envisage de se rendre dans un pays européen, il faut se dire que c'est en règle générale ce premier pays où vous allez poser le pied qui va ensuite gérer votre situation future. Donc faut faire attention à ça.
Ouais,
et après, il est quasiment impossible de changer ou de choisir d'aller en France après ou en Espagne ou autre.
Ouais, donc lui, il n'a pas choisi le Portugal. Il était dans un camp, comment il s'appelle, de réfugiés ou voilà, à la guerre.
Ouais, j'entends bien, mais c'est vrai que dans l'urgence ensuite, enfin, l'Europe s'organise également comme elle peut, quoi.
Voilà Alice, que Maître Serran pouvait vous répondre. Merci pour votre appel. Maître Serran, dans un instant, vous prenez d'autres appels. Vous pouvez composer le 01 53 48 3000. C'est le numéro du standard de Beurre FM. 01 53 48 3000.
À votre service, reviens dans un instant. 9h-10h, à votre service avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Et Maître Serran qui répond à toutes vos questions d'ordre juridique au 01 53 48 3000. Je rappelle que pour tous ceux qui ne passeront pas au standard aujourd'hui et qui préfèrent poser leurs questions à Maître Serran discrètement, ils peuvent le faire sur sa boîte vocale par
exemple. Absolument, au 06 62 58 59 64 06 62 58 59 64.
Direction Toulouse, Nadir est avec nous. Nadir, bienvenue. Bonjour Nadir.
Oui, bonjour Philippe, bonjour Maître.
Bonjour Nadir.
Pour une question s'il vous plaît. Alors j'ai ma nièce qui a 5 ans, pratiquement 5 ans, qui est venue en vacances ici en France, par contre, que je veux garder. Est-ce que ça va poser de problème par rapport à ça? On veut,
Par rapport à cette situation. Ouais, mais alors quand vous me dites que vous voulez garder, sur un plan, alors indépendamment du fait que vous soyez son oncle, mais sur un plan purement juridique, sur quelle base, sur quel fondement? En règle générale, les personnes qui me posent ce genre de questions bénéficient de ce qui s'appelle une kafala. Vous avez ça?
Non, ça, je n'ai fait aucune procédure, rien du tout. Voilà, c'est là, son père ne travaille pas, la situation n'est pas trop facile là-bas non plus. Alors que je veux, enfin, avec l'accord de son père et de sa mère.
Ah non, mais enfin, j'imagine que voilà, vous nous annoncez pas en direct un enlèvement, mais sur un plan purement juridique.
Je n'ai fait aucune démarche.
Les autorités françaises vous poseront la même question que je vous pose là, c'est-à-dire sur quelle base juridique, et le simple fait d'avoir un lien de parenté avec l'enfant ne vous autorise pas à garder, entre guillemets, on va dire à plein temps, cet enfant. Donc ce qu'il faut faire, c'est à minima une kafala. À partir du moment où les parents vous autorisent donc à vous occuper pleinement de l'enfant, et dès que vous avez cette kafala, donc vous avez la possibilité d'être considéré juridiquement comme, d'aucuns diront le père, d'autres diront le responsable de cet enfant. Mais là, c'est injouable. Hein, si vous me dites que l'enfant est là et que juridiquement vous avez pas d'autorité parentale, on va utiliser ce terme un peu large. Donc non, là, ce sera pas possible. Vous allez juste vous compliquer la vie de cet enfant.
D'accord. Et la kafala, il faut la faire ici au pays
Non, il faut la faire. Il faut la faire au pays. Hein, vous êtes de quelle nationalité?
Algérien.
Il faut la faire au pays. C'est un juge qui va rendre la décision, c'est-à-dire qui va constater que les parents n'y voient aucun inconvénient, qu'il y a une motivation, une raison particulière pour faire ça. Et c'est effectivement très souvent des parents qui justifient d'une certaine précarité financière. Et une fois que vous aurez cette belle décision, donc vous pourrez à ce moment-là, mais à ce moment-là seulement, envisager de faire des démarches pour que l'enfant puisse rester sur le territoire et pour que vous puissiez être reconnu comme étant le tuteur légal. Alors j'utilise ces termes-là parce que les autorités françaises considèrent que la kafala n'est pas une adoption au sens français du terme. Donc c'est pour ça qu'on a toujours du mal à trouver le bon terme, mais il va falloir au préalable commencer par ça.
Hein. D'accord. Et une fois la kafala est faite, à partir de là, je pourrais faire une démarche auprès de l'OFI, j'imagine, pour faire.
À partir de là, il y a pas de difficulté. Alors, ce qui peut sembler curieux, c'est que vous avez certaines administrations qui vont vous demander de procéder à ce qu'on appelle une exéquature. C'est-à-dire demander à un juge d'un tribunal de grande instance, donc juge de votre lieu de domicile, de transformer cette kafala en jugement français. D'accord. Alors, c'est assez particulier parce qu'en vérité, comme il s'agit, alors je suis désolé, c'est un peu technique, d'un problème d'état des personnes, ça s'appelle comme ça, en principe, on n'a pas à exiger l'exéquature, mais les administrations françaises, qui ne sont pas toujours au fait de cette situation, sollicitent souvent l'exéquature. Bon, alors on peut se dire, mais attendez, on va batailler, leur expliquer que ce n'est pas obligatoire, donc je ne le fais pas. Mais ça, ça va vous compliquer la vie. Donc dès que vous avez la kafala, vous pouvez éventuellement, si une administration vous cherche des poux dans la tête, faire une exéquature et à partir de ce moment-là, vous aurez un jugement français. Et avec ça, vous pourrez faire venir l'enfant sans difficulté.
Auprès d'un tribunal de grande instance, maître ?
Oui, voilà, ce sera auprès du tribunal de grande instance de votre lieu de domicile.
D'accord.
Et devant un tribunal de grande instance, l'avocat est obligatoire.
D'accord.
Voilà, ça, faut le savoir, il n'y a pas d'autre option. Maintenant, vous pouvez avoir, entre guillemets, de la chance et que l'administration n'exige pas ça, mais souvent, les administrations embêtent les clients en disant « Mais attendez, votre kafala, entre guillemets, ne vaut rien, il me faut un jugement français. »
D'accord, la première démarche est d'aller au tribunal à Alger pour
au pays, au pays d'abord pour que la kafala puisse être établie.
Ok, ça marche. Merci beaucoup, maître, c'est gentil à vous.
Merci à vous pour votre appel.
Merci Nadir pour votre question.
Merci, au revoir.
Grenoble, et c'est Chekna qui est avec nous, maître Serran. Chekna, bienvenue.
Oui, bonjour maître. Excuse-moi, je cherchais à vous joindre depuis longtemps, mais c'est la première fois que j'arrive.
Jour de chance aujourd'hui.
Ouais, ouais. On vous écoute.
Okay. En fait, ma question, c'est que je suis en France, ça fait plus de 20 ans, j'ai la carte de résident permanent. Et là, actuellement, je vis avec une femme qui a la carte de séjour italienne. Elle est enceinte de mon enfant, normalement, elle doit accoucher au mois d'août. Et je voulais savoir s'il y a une possibilité au niveau européen pour pouvoir la légaliser en France, quoi.
Bah, le fait d'avoir un enfant commun va évidemment aider le dossier et la situation, puisque la Cour européenne des droits de l'homme, en tout cas la Convention européenne des droits de l'homme, interdit dans ce qu'on appelle le droit à une vie familiale normale, interdit de séparer les parents. Vous voyez, on peut pas dire, bah écoutez, madame, retournez en Italie, parce que d'abord la question va se poser, l'enfant il reste avec madame, il reste avec vous, ou alors on peut pas vous dire à vous, bah écoutez, si vous aimez madame, bah vous allez la rejoindre en Italie. Donc à partir du moment où madame aura accouché, donc je vous invite quand même à vous rapprocher des autorités préfectorales, et ça devrait pas poser de difficultés en la matière. Voilà, vous savez quand même, et l'élément le plus important dans cette histoire, c'est l'enfant en commun que vous avez ou que vous aurez. Donc,
oui, on a tout en commun, et même au niveau de la CAF, je l'ai déclaré.
Ouais, donc ça devrait pas, enfin voilà, ça devrait pas poser de difficultés. L'administration, elle est compliquée, mais là, on est dans une situation qui permettra à madame, donc ou à vous, de faire le nécessaire. Et de rester tous en famille sur le territoire français, si tel est votre désir.
Oui, oui, oui. Vraiment, merci beaucoup.
Merci à vous pour cet appel.
Merci, au revoir.
À bientôt.
Merci, Chekna. Amine est à Toulouse, au 01 53 48 3000. Les Toulousains en force aujourd'hui.
On a beaucoup de gens de Toulouse. Ouais, c'est
beaucoup
vrai.
De Toulousains, Maître
Serran.
Bonjour.
Bonjour, Amine.
Bonjour, Philippe.
Maître...
J'ai une petite question.
Maître Serran, vous écoutez.
Pour Maître Philippe.
Ah, Metzeral.
Metzeral, pardon. Ouais, que...
Alors, oulala, Amine, où ça commence mal.
Ouais, c'est ça. Alors qu'on vient de dire, on est content d'avoir des appels de Toulouse et tout. Voilà. Et Amine est en train de pilonner Toulouse.
Je suis désolé parce que je suis
en train de... Mais allez, je vous pardonne. On vous écoute, Amine.
En fait, j'avais un jugement avec mon ex-femme pour les enfants. Elle a fait appel et je voulais savoir est-ce que l'avocat, il est obligatoire pour moi.
Ouais, alors, donc, il y a un tribunal de grande instance qui a rendu une décision de divorce.
C'est pas une décision de force, c'est une décision...
Vous n'étiez pas marié?
Non.
Bon, alors donc...
Concernant les enfants et la...
D'accord, donc
enfants.
C'est le juge aux affaires familiales, et donc madame conteste. Oh,
décidément. Oui.
Bah oui, si vous ne prenez pas d'avocat, bah vous pourrez pas bénéficier de quoi que ce soit, vous aurez pas d'informations, vous aurez rien par rapport à ça. Donc il va falloir... Alors vous n'êtes pas obligé, si vous pouvez dire, bah tant pis, elle a qu'à faire appel et puis on verra.
Je ne serai même pas écouté.
Bah non.
Même pas convoqué.
Non. Devant la cour d'appel, dans la procédure que vous évoquez, il va falloir vous faire représenter ou assister. La décision, madame, considère qu'elle est entre guillemets trop favorable à votre égard.
Ah oui, je pense que ça, mais c'est pas trop. En fait, j'avais déjà la garde des enfants, ça fait longtemps.
D'accord.
Et j'ai saisi le juge pour que madame elle vienne chercher les enfants le dimanche chez moi. Je parlais chercher le vendredi, elle venait pas ça en fait. Et elle a fait appel juste pour ça.
Bon, bah écoutez.
Pas grand chose.
Mais en tout cas, vous avez eu l'impression d'abord que ça s'est bien passé avec le magistrat, mais c'est confirmé par la décision. Alors d'aucuns vous diraient, bah écoutez, n'ayez crainte, laissez madame aller s'expliquer toute seule. Mais vous savez, il arrive parfois que les premières décisions, comme on dit, les décisions de première instance, parfois elles sont favorables à notre client ou à la partie adverse. Et quand un appel est interjeté, quand on se retrouve devant d'autres magistrats, il arrive parfois que l'autre magistrat, en tout cas la cour d'appel, considère que le tribunal ou que le juge a mal apprécié la situation ou le dossier. Donc c'est vrai que quand on n'est pas sur place, quand on ne s'est pas manifesté auprès d'une juridiction, on court le risque quand même de recevoir une décision qui ne vous est pas forcément favorable. Donc il faut quand même faire attention à ça. Ce n'est pas parce qu'une première fois un juge vous a donné raison qu'une cour d'appel va continuer de vous donner raison. Donc ce serait bien quand même d'expliquer la situation, d'être présent et de mettre en avant les arguments.
Et si par exemple je prends un avocat, j'ai le droit de demander un dommage d'intérêt parce que je trouve que c'est abusif.
Vous avez la possibilité de considérer, et le terme est bien choisi, que c'est une procédure abusive, enfin voilà, que madame fait ça, on va rester poli, que pour vous embêter. Donc oui, tout ça n'est pas interdit, bien sûr. Tout ça n'est pas interdit. Et ce d'autant plus que vous me dites qu'a priori, les enfants sont avec vous depuis très longtemps.
Oui.
Bon. Donc c'est vrai qu'un magistrat pourrait considérer que madame est, entre guillemets, particulièrement pénible et puis mettre un petit coup de gourdin sur la tête sur un plan financier. Il y a aussi ce qu'on appelle l'article 700, c'est-à-dire que vous pouvez demander à la juridiction de condamner madame à rembourser vos frais de procédure, vos frais d'avocat. Donc oui, il y a aussi des éléments à ce niveau-là pour éviter que les gens puissent faire, ou en tout cas engager des procédures, on dit en droit, à des fins dilatoires, c'est-à-dire juste pour, pardon, pour vous emmerder, pour perdre du temps.
Ok, ça marche. Merci beaucoup.
Merci Amine pour votre question. Allez, Maître Serron répondra à vos questions dans un instant. Si vous voulez l'appeler ce matin, 01 53 48 3000, il faut en profiter puisque Maître Serron, la semaine prochaine, est à Razaouet.
Ouais, et il sera peut-être le nouveau président algérien.
Non.
Mais on fera une émission, enfin, je vous inviterai. Hein,
non, mais je sais, mais il y a très, très peu de chances.
Ah, carrément.
Ah, il faut avoir été invité par Adil Farkan pour ça. Est-ce que vous avez été invité par Adil Farkan?
Mais il m'a invité un jour. Ça, on ne prend pas ça en considération.
Ah non, non, non.
Un
jour. Le futur président algérien est invité par Adil Farkan. Donc, si vous n'avez pas été invité, Maître Serron.
Non, je n'ai pas été invité. Non.
C'est mort. Voilà.
Oh, zut.
C'est triste. 01 53 48 3000. Vos questions juridiques, c'est dans un instant.
À votre service, reviens dans un instant. 9h, 10h. À votre service avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Et Maître Serron, rigolard, Maître Serron.
Bah oui, je vais pas raconter à nos auditeurs ce que vous étiez en train de dire quand même. Alors, non, je ne le ferai pas, je suis tenu au secret professionnel. Donc vous pouvez tout faire.
C'est bien, Maître Serron.
Ah bah oui.
Ah ouais. Vous jouez votre place, vous savez.
Je sais, c'est ce que j'ai cru comprendre ce matin en arrivant. On est peu de choses. Hein.
Votre remplaçante est très jolie.
Je te jure, on est peu de choses.
Très, très jolie.
Ouais, en fait. Bon, j'ai failli dire un truc, après là, ça... Mais je ne le dis pas.
Allez, 01 53 48 3000. Abdella est avec nous. Abdella, bonjour et bienvenue. Abdella.
Monsieur Philippe, bonjour maître.
Bonjour Abdella.
Moi, j'ai un problème qui est différent des autres.
Ah.
Voilà, moi je suis de double nationalité et je voulais me marier avec une femme en Algérie, ben, une femme d'une amie, enfin c'est des amis à moi. Et puis voilà, je voulais me remarier parce que j'étais déjà marié, divorcé. Et j'ai déposé un dossier en France pour me marier en France. Parce que j'ai fait la première fois avec une et j'ai divorcé avec elle. Et le dossier, il a été conforme. Tout est fait, tout est conforme jusqu'à l'affichage, jusqu'à été convoquée au consulat en Algérie. Elle a été auditionnée, tout ça. Tout ça s'est bien passé. Arrivé pour le visa, j'ai fait trois fois la demande. Les trois fois la demande, ça a été refusé. Ça a été refusé parce que à chaque fois que je descends, je prenais le billet d'avion et je descendais là-bas, j'allais au consulat de France en Algérie. Et malheureusement, là-bas, vous avez plus souvent affaire aux vigiles qu'au personnel du consulat. Et c'est resté 20, mais mes voyages, ils n'ont pas eu de résultat. Alors, on m'a conseillé de me marier en Algérie et de faire le nécessaire pour la ramener en France. Et bien, c'est ce que j'ai fait. Je me suis marié en Algérie, j'ai déposé un dossier à Nantes. À Nantes, ils ont pris les papiers, ils m'ont renvoyé le dossier. Et on me demande un extrait de naissance. Voilà, le problème, il vient de l'extrait de naissance. Ça fait trois mois que j'ai réclamé l'extrait de naissance à Nantes. Je l'ai fait par Internet, je l'ai fait par lettre recommandée, je l'ai fait par l'intermédiaire de la commune où j'habite, par la mairie. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas l'extrait de naissance. Alors, je voudrais savoir comment et pourquoi.
Non, alors pourquoi, j'en ai aucune idée, puisque en tout cas c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'on galère aussi, si vous passez l'expression, je ne sais pas ce qui se passe à Nantes, mais il fut un temps où à peine 10 jours on avait, quand on commandait via Internet, on recevait nos documents et ça ne posait pas de difficultés, mais vous n'êtes pas le seul à être confronté à ça. Moi je le vois même au niveau de mon cabinet, effectivement, on a commandé des actes il y a un petit bout de temps. Et on est sur à peu près le timing, voilà, ça fait à peu près deux mois et demi, donc je devrais les recevoir d'ici quelques temps. Mais je ne pourrais pas vous dire, monsieur, pour quelle raison, j'en ai sincèrement aucune idée. On a essayé de faire l'effort et de les contacter directement par téléphone. Bon, c'est une mission impossible, hein. C'est-à-dire que quand vous réussissez, vous avez la grande chance que quelqu'un décroche. Au bout de 30 secondes, vous savez pas pourquoi, la personne raccroche. Bon, puisqu'après, quand vous essayez de rappeler, vous avez jamais le même interlocuteur. Donc, je serais incapable, monsieur, de vous donner la moindre explication, la moindre raison. Et d'ailleurs, si un auditeur qui, de près ou de loin, serait lié donc à ce service, pouvait nous faire le plaisir de nous orienter. Mais je connais, mais je suis pas le seul. Hein, d'autres confrères, nous connaissons donc les mêmes difficultés. Et effectivement, le service de Nantes, qui était hyper performant, l'est un peu moins. Alors, est-ce que ça va être comme ça tout le temps? Est-ce que c'est, entre guillemets, une sorte de bug qui fait que pendant un laps de temps, ils vont être un peu compliqués? Mais j'ai pas d'explication, monsieur, j'ai pas d'explication. Et quand je vous dis, on essaie d'avoir un interlocuteur, eh ben, quand on nous fait le grand honneur de décrocher et d'essayer de répondre à notre question, je vous dis, au bout de 30 secondes, ça coupe. Bon.
Oui. Est-ce que, s'il vous plaît, je poursuis ma question? Moi, j'ai constitué le dossier en France pour faire un mariage en France. D'ailleurs, je vous ai dit, je l'ai déjà fait. Ça ne pose pas de problème. Si la personne en question, on lui donne le visa.
Pour bah oui, mais c'est toute la difficulté. Le vrai problème, c'est ça, monsieur. C'est-à-dire que, au niveau de formalisation du dossier et tout, il n'y a pas de difficulté majeure à ce niveau-là. Mais après, il est peu probable que les autorités françaises vous délivrent, en tout cas délivrent à madame un visa pour faire le nécessaire. Donc c'est vrai que quand c'est comme ça, en règle générale, il vaut mieux se marier au pays.
Ben, il y a eu 3 fois le refus.
Ouais, ah non, mais je suis pas surpris. Alors, dans le refus, on vous donne quoi comme raison, comme motif?
Bah, ils donnent des motifs qui sont pas valables, parce qu'ils donnent soit le motif, elle sait pas où elle va, soit il lui manque un papier alors que le papier est dans le dossier, soit on connaît pas.
Alors, dans d'autres circonstances.
C'est un refus qui n'a pas d'explication dans laquelle on peut se prendre par la main et résoudre le problème.
Bon, ouais, je vous confirme, c'est rarement comme ça. Mais voyez, dans d'autres circonstances, je vous aurais dit, écoutez, n'hésitez pas à contester. Mais là, entre le moment où vous allez contester et le moment où vous aurez une éventuelle réponse positive, puisque d'abord il y a une contestation auprès d'une commission, et si la commission, ouais, non, mais voilà, honnêtement, enfin, si vous me dites que c'est un projet de mariage, vaut mieux éviter de contester, puisque si la commission, pour une raison X ou Y, ne vous répond pas ou vous dit non, vous serez obligé de saisir le tribunal administratif de Nantes, et il y en a pour des siècles pour avoir un retour. Donc non, à part le mariage au pays, mais en France, là, ça me semble loupé, hein. Ils vont continuer à vous mettre, entre guillemets, des bâtons dans les roues.
Parce que la première fois où on lui a donné le visa, elle est venue.
Ouais, c'est il y a combien de temps?
Il y a 3 ans de ça. Ouais, mais ça a changé.
Avec la première femme?
Ouais.
Vous étiez déjà marié il y a 3 ans?
Je lui ai fait la demande du visa. Elle a eu la première fois le visa.
D'accord. Mais avec la première épouse?
Ouais.
D'accord. C'était il y a que 3 ans.
Ouais, ouais.
D'accord.
Et malheureusement, vous voyez, le divorce, il a été très vite.
Ouais.
C'est le problème des femmes qui cherchent leur intérêt.
Ben après, on peut peut-être considérer que, bon, c'est une femme qui venait du pays aussi.
Oui, oui. Oui,
donc elle a été régularisée sur le territoire français?
Non.
Non?
Non. J'ai divorcé avant parce que je me suis aperçu que...
Monsieur est prudent. Mais encore une fois, je vous dis, je vais pas vous inviter à contester ce refus. Ça va prendre, voilà, des mois et des mois. Et pour peu que votre femme ait envie absolument, en tout cas la future nouvelle, elle ait absolument envie de venir sur le territoire français. Donc elle va finir par avoir des doutes en disant que c'est peut-être de votre faute si vous faites pas le nécessaire. Donc non, un mariage au pays, ce serait peut-être la meilleure des options, en tout cas la plus simple.
Mais je l'ai fait justement, c'est ce que je suis en train de vous expliquer.
Mais je suis en train de vous dire que j'ai pas de réponse sur cette histoire de timing. Franchement, je vous dis, même les cabinets d'avocats, on est confrontés à ça, et je le vois depuis quelques mois. Les services de Nantes qui étaient sincèrement hyper performants, hein, je vous dis, en une semaine, 10 jours, on avait nos documents.
Ouais.
Et là, effectivement, c'est assez surprenant. Alors, on nous donne un petit numéro, voilà, qu'il faut toujours garder sur soi, mais quand on les relance, j'ai pas de retour particulier, on me donne pas de timing. C'est-à-dire qu'on me dit pas, écoutez, j'ai n'importe quoi, dans 15 jours, dans un mois, on va débloquer ça.
Sauf que c'est plus long qu'avant.
Ah, carrément, même.
Je vais pas vous garder longtemps, maître, mais pour vous dire, j'étais jusqu'au point d'aller le demander à la mairie de Levallois pour qu'ils fassent, eux, la demande de cet extrait de naissance. Et j'ai des papiers qui vont expirer, mais je vais encore perdre 6 mois.
Ouais. Et vous ont dit quoi qui...
Eh ben, ils attendent pareil que moi.
Ouais, bah...
dit, on n'a rien reçu.
Non, mais c'est... voilà, le truc, c'est ça. Je sais pas focalisé, entre guillemets, que sur vous. Je vous dis, on l'a constaté hein, depuis quelques mois. Mais honnêtement, je n'ai pas de réponse. Hein. Je ne sais pas pourquoi ça bloque.
Ouais, je comprends. Ben, je vous dis au revoir et bon courage et bonne journée. Puis, ben, voilà, ben, bon voyage pour l'Algérie.
Ah, merci, ben, merci. Abdelah.
J'espère que vous serez président et je viendrai vous le voir.
Ah ben, Inch'Allah, voilà. Allez, hop, et voilà, déjà...
Une voix.
Une voix. Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Allez, Ali, Maître Serran a 4 minutes à vous Bonjour. Consacrer. Ali, bienvenue.
Allô, bonjour.
Bonjour, Ali.
Bonjour, Philippe. Bonjour, Maître Serran.
Bonjour, Ali.
Monsieur le président, on vous souhaite.
Merci, Ali. Oh, hey.
Oh, les faillots.
Ouais, mais pourquoi les faillots? Pourquoi? Il a lu mon programme? Merci Ali.
Ton programme. Non, vous êtes monté là quand vous parlez à la radio. Là, je comprends que les gens ils sont comment ils sont.
Bon, bah voilà.
Pas comme les autres, ils racontent des histoires pour rien, la politique. Mais là, sincèrement.
C'est vrai.
Je vous entends depuis longtemps, mais.
Bon, bah écoutez, ça me fait plaisir ce que vous dites.
C'est gentil, merci beaucoup. En fait, moi j'ai un petit problème. Bon, je suis marié depuis 2002.
Ah, déjà en soi, c'est un problème d'être marié depuis 2002. Ouais, tout dépend de votre femme, si elle est agréable ou pas. Pas agréable, sympathique, hein, dans ce sens-là.
Hein. Elle était.
Ah ! Alors ? Et qu'est-ce qui se passe ?
J'ai vécu en Algérie pendant 39 ans.
Ouais.
44 ans maintenant. Là, je suis là depuis 2013. On a, bon, les papiers, c'est dans un mois. En un mois, j'ai fait tous mes papiers, parce que là, j'ai vécu en Algérie, j'ai pas de papiers en France, même ma femme n'a pas de papiers en France.
D'accord.
Et comme Dieu merci que j'ai eu la chance, j'ai déposé le dossier, ils m'ont donné le papier tout de suite, d'un an à chaque fois. Et maintenant, je suis à la 4e année, pour ma 4-6 jours d'un an. Et là, c'est un problème de divorce maintenant.
D'accord.
Elle est rentrée dans le système en France, j'ai rien compris.
Alors, c'est-à-dire, là, c'est madame qui engage la procédure de divorce ?
Non, c'est... Bon, elle m'a dit, si tu veux dire le mot, tu lui dis directement. J'ai dit directement, bon, pas l'air que t'as dit. Mais là, depuis le 20 mars, et là, maintenant, je cherche la procédure, comment je dois faire, parce que je suis marié en Algérie, et moi-même, je ne peux pas rentrer en Algérie.
Mais si, monsieur, votre domicile est sur le territoire français, il n'y a rien qui vous interdit d'engager une procédure sur le territoire français. Vous n'êtes pas obligé de divorcer en Algérie. Alors, ça peut être un choix, mais...
Ah, je peux,
si... ouais, ah bah oui, si madame... Enfin, madame est ici.
Bah, elle est là.
Ouais, bon, ben, vous saisissez le tribunal de votre lieu de domicile. Il ouais. n'y a pas de difficulté sur ce terrain-là. On peut être marié à l'étranger et puis divorcer sur le territoire français. Ça va être en fonction de votre lieu de résidence. C'est-à-dire que votre lieu de résidence est sur le territoire français. Donc, ça semble même plus logique de divorcer sur le territoire français. Donc, c'est pas une difficulté, ça.
D'accord. Et éventuellement, pour... là, j'ai peur pour les papiers de 10 ans. Parce qu'on a fait j'ai fait le dossier, bon, lorsque c'est... On a fait le papier. C'est de vie familiale.
Ouais, voilà, enfin là, honnêtement, compte tenu de ce que vous êtes en train de me dire, compte tenu quand même de la durée du mariage, il faudrait que madame établisse, prouve, démontre que vous seriez marié que pour des papiers. Là, ça me semble un petit peu non, difficile à mettre papiers, en avant.
Non, c'est pas des papiers pour les papiers. On est venu, on était là.
Ouais, bon, ben donc, non, il n'y a pas de... Enfin, voilà, je ne vois pas de raison particulière, lorsque le divorce va être prononcé comme, entre guillemets, n'importe quel divorce, pour que la préfecture vous cherche des poux dans la tête. Il n'y a aucune raison, monsieur, aucune.
Ah, très bien, j'ai peur par rapport à ça. Et puis, je dis, je vais attendre un peu, et là, c'est bon, je n'ai marre, c'est pas bon.
Oui, on peut, enfin voilà, après, enfin, vous pouvez, comme vous dites, attendre un peu, mais non, si effectivement vous avez l'impression que vous arrivez à un point de rupture, bon, il vaut peut-être mieux essayer, en tout cas, faire en sorte de se séparer tranquillement, mais vous pouvez saisir vous pouvez demander à un avocat de saisir le tribunal, encore une fois, de votre lieu de domicile, il n'y a pas de difficulté en la matière.
D'accord, merci beaucoup, maître.
Merci à vous.
Voilà, merci beaucoup et bon voyage, merci.
Merci, Ali. Merci. Voilà, merci, votez pour Maître Serran, votez pour Maître Serran.
Oui,
merci, Ali.
S'il vous plaît, n'hésitez pas.
On va essayer de recruter un dernier votant, c'est Saïd, Maître Serran. Ça, c'est toujours ça de pris.
C'est
hein.
vrai.
Saïd, bienvenue.
Oui, bonjour.
Bonjour Saïd.
Bonjour maître.
Alors maître Serne vous écoute Saïd.
Oui, appelez-moi président.
Non,
là, oui, là j'exagère quand même. Pas tout de suite, pas tout de suite, Saïd.
Maître président.
Voilà, on vous écoute, Saïd.
En fait, j'ai une petite question. J'ai ma belle-mère, elle a 70 ans. Ça fait 3 ans maintenant qu'elle vient en France de façon régulière via un visa court séjour.
Ouais.
Ça, les deux dernières années, elle a eu un visa d'une année. Cette fois-ci, elle a eu que 6 mois. Je ne sais pas qu'est-ce qui a changé entre-temps. Et malheureusement, il y a ma femme, elle a eu une intervention chirurgicale et elle a du mal à bouger, etc. Et du coup, ma question, est-ce qu'il y a moyen de demander genre une carte de séjour visiteur ou prolongée?
Oui, pour que votre belle-mère puisse rester au motif qu'elle s'occuperait de votre femme.
Et les enfants aussi.
Et des enfants. Ouais, ah, ouais, sauf que là, je suis en train de parler avec le père des enfants et avec le mari de l'intéressé.
C'est ça,
et oui. Eh oui, et c'est entre guillemets l'argument, mais qu'on peut comprendre, qui sera invoqué en disant, mais ça peut s'entendre et se comprendre, ouais, s'il y avait eu personne d'autre. C'est-à-dire, si votre femme me passe un coup de fil en disant, écoutez, il n'y a personne, je suis souffrante, je suis malade, il n'y a que ma mère qui peut, à la limite, ça peut s'entendre et se comprendre. Mais là-dedans, on dira tout simplement que le premier concerné, c'est d'abord vous, monsieur. Donc, si l'argumentation juridique, c'est dire c'est pour venir aider, pour que cette femme vienne aider sa fille, ce sera un refus. Et on peut le comprendre. Alors, je peux comprendre votre situation, un problème d'organisation, mais là, ça me semble plié. Hein.
D'accord.
Ouais. Et je le redis, voilà, même si, enfin, la réponse, une réponse négative ne fait jamais plaisir, mais on peut l'entendre, c'est là, on peut la comprendre. Encore une fois, c'est d'abord à vous. Au mari de faire le nécessaire. Après, si vraiment, le mari de manière exceptionnelle ne peut pas pour, mais alors vraiment de manière exceptionnelle, il y a intérêt de le démontrer, on peut faire appel à une tierce personne, donc à votre belle-mère. Mais là, non. On va d'abord s'intéresser à vous et vous dire, monsieur, vous êtes toujours marié avec madame, et ben vous êtes gentil, vous occupez d'elle et de vos enfants.
D'accord.
Ouais. Donc, selon moi, ça présente aucun intérêt à faire ça. Ouais.
Pas jouable.
Non. Non. Non, et vous risquez même de la blacklister pour son visa qui lui permet quand même de venir sur le territoire français, ouais, et de repartir, parce qu'on va se dire, tiens, c'est curieux, elle a fait une demande de cette nature, on va lui refuser, mais on pourrait aussi soit refuser, soit annuler donc le visa que la France lui a déjà attribué.
D'accord, ok. Bah, dans ce cas, elle sera obligée de repartir et de renouveler son visa.
C'est la meilleure option.
D'accord, ok, très bien.
Merci Saïd pour votre question.
Merci Saïd.
Voilà, une voix de plus pour Maître Serane. Razaouet vous attend, Maître Serane. Ouais, vous allez nous manquer.
Bah, vous allez me manquer également, mais je vais venir avec des petites anecdotes de Razaouet.
Et de l'huile d'olive.
Et de Clemson.
Et de l'huile d'olive.
De l'huile
s'il
d'olive.
Vous plaît, Maître Serane.
Je vais vous ramener de l'huile d'olive. C'est une.
Donc, dans 2 semaines, Maître Serane.
Bah oui.
Retrouvez à votre service tous les jours, de 9h à 10h, et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.